France Inter. Philippe Bertrand.
Carnet de campagne, bonjour. Est-ce que nous nous rapprochons vraiment de la nature ou sommes-nous en train de devenir de simples consommateurs de produits dits naturels ? Ces questions guidaient le réalisateur Julien Després vers les producteurs et cueilleurs de plantes sauvages, qu'elles soient alimentaires ou médicinales. Son film « Cueilleurs en résistance » est un parfait témoignage de ce qui ressort d'une mode avec ses aspects positifs et ses revers négatifs. Il sera notre second invité. Mais pour l'instant, cap vers les Landes, le fil rouge de cette semaine, un assiette en plein cœur de la Chalosse.
Carnet de campagne. Le journal des solutions.
Grégory Vigneault, bonjour.
Bonjour Philippe.
Grégory, merci pour votre courrier. Je ne sais pas comment vous présenter parce que vous êtes certes animateur nature, mais vous êtes artiste, vous êtes musicien aussi.
Ouais, je suis un peu de tout ça. C'est vrai que c'est toujours un peu compliqué de se présenter, mais effectivement, je fais énormément de choses.
Vous créez un assiette Terra Pichun en 2014 dans ce beau cœur des Landes, de la Chalosse, dans le sud des Landes, dans cet espace très agricole, très rural, mais avec un bel environnement. C'est justement cet environnement qui a fabriqué d'une certaine manière Terra Pichun.
Oui, c'est ça. On sortait avec mon épouse qui est professeure de PS, on sortait d'un chantier participatif avec une maison passive et on avait envie de changer notre façon de vivre, d'éduquer nos enfants totalement différemment. Et donc est venue l'idée de faire des activités un peu pour tout le monde et surtout des activités voilà qui tournent autour de la nature, de l'histoire, du patrimoine et qu'on achète quasiment rien quoi. On arrive à s'occuper avec tout ce qu'on a autour de nous quoi. Ce qui est pas malheureusement dans l'air du temps et qui justement voilà donne de bonnes idées à tout le monde et trouver toujours quelque chose à faire à la maison plutôt que d'être devant les écrans voilà quoi.
Il y a de plus en plus d'activités qui se déplacent, nomades ou itinérantes. Vous êtes en grande partie itinérant aussi.
Alors moi je suis quasiment à 98% du temps itinérant. Quasiment tout le temps en fait, hein. Je suis autant dans les festivals que dans les collèges, les lycées, les écoles, tout type de structures qui ont besoin d'une activité spécifique, ponctuelle, ou alors vraiment d'un besoin particulier sur une année ou sur un mois, enfin voilà, pour un projet, quel qu'il soit. Donc c'est vraiment systématiquement, oui, en structure, oui, tout à fait.
Même en prison, tous les vendredis à Montmartre.
Oui. Ouais. Ça c'est quelque chose que j'essaye de maintenir tant que je le peux. Effectivement, c'est vrai que c'est des activités qui changent du tout au tout. Je peux être en crèche le matin et avec des détenus l'après-midi. Et c'est vrai que ça, c'est très important. Et puis, c'est au niveau humain, on grandit énormément, quoi.
Terra Pichun, pour moi, c'est un peu une école de la nature. Qu'est-ce que vous emportez dans votre cartable ?
Alors, qu'est-ce que j'emporte ? J'emporte surtout les souvenirs de quand j'étais gosse, en fait. J'ai des souvenirs de venues de personnes un peu étranges qui venaient dans l'école, des boas constrictors ou des choses un petit peu bizarres qui venaient des fois comme ça quand j'étais petit à l'école, notamment dans les Landes. C'est venu de ça en fait, j'avais envie de créer une espèce de porte ouverte à l'imaginaire, à la culture, à la curiosité. C'est vraiment la curiosité qui est vraiment le plus important dans toutes les activités que je fais. C'est vraiment le fait que ça donne envie aux gens d'être curieux et de faire tout ce que la vie et le monde nous permet de faire, quoi.
Alors Pichun, elle est tout petit, hein. La petite enfance, vous commencez à aborder cette approche de la nature par les arts, la peinture par exemple avec des fruits, des légumes, de la lutherie sauvage, dès l'âge de 1 an, et puis vous inventez des choses. Alors une caravane autonome en énergie, ça, j'ai vu que c'était votre rêve de trouver tout ce qui pouvait vous rendre autonome en énergie pour vous déplacer là où vous en aviez envie.
Tout à fait, oui. Alors justement, je pars dans le délire au taquet, c'est-à-dire que l'année prochaine, j'ai passé un partenariat avec une société qui est la seule au monde à faire ça, qui est en Andalousie, qui s'appelle Evo Vélo et qui en fait fabrique des vélocipèdes à 3 roues. Ouais. Et j'espère courant 2020, maximum 2021, pouvoir faire l'intégralité, enfin la majeure partie de mes déplacements en vélo. Donc c'est un vélo solaire, c'est le seul au monde en fait qui se recharge tout seul, en fait qui a à peu près 90 km de portée, et ce qui me permettra de faire la majorité de mes activités en fait en me déplaçant à 50 km/h maximum, et donc avec un vélo, une voiturette quoi, ça ressemble un peu à une voiturette électrique, mais ça reste un vélo quoi.
Et c'est quoi, c'est un cabinet de curiosité ?
Alors ça c'est une activité en plus. ça ressemble un peu à un musée du vivant, donc j'amène des cailloux, j'amène des os, des fourrures, j'amène des masques africains, des objets, des instruments de musique ethniques, enfin voilà, un certain nombre de choses, et puis ça me permet de faire des activités, notamment avec les petits, mais aussi avec les maternelles, et c'est un musée vivant, donc ils peuvent toucher, sentir avec les mains, voilà.
Bah, avant de rencontrer Grégory, allez sur son site therapychoun.com, vous allez en prendre plein les yeux justement de ses inventions et de ses propositions, aux tout petits comme aux très grands, à travers les arts, la nature, le développement durable, la protection de l'environnement. Merci beaucoup Grégory.
Merci.
Carnet de campagne, Philippe Bertrand sur France Inter.
Nous avons reçu des nouvelles plutôt bonnes d'un trio de drôles de dames qui a repris l'ancien café du village de Luglon dans les Landes. On est au nord de Mont-de-Marsan, 390 habitants à peu près, qui a désormais sa maison Garbet, un lieu intergénérationnel qui comprend un café associatif, un espace culturel avec des dîners-concerts, une épicerie qui était restée en sommeil pendant 8 ans dans la bourgade. Et à l'origine du projet, les drôles de dames et leur association Écolorie, sorte de plateforme d'accueil, de rencontres et de partage. Depuis son ouverture, la maison a aménager aussi un espace lecture, un espace jeune. Et les animatrices et les bénévoles du lieu ont d'autres projets en cours, comme la création d'un écolieu à l'Espéron. En attendant, maisongarbet.fr. Si d'autres plans de ce type sont en gestation dans le département, il en est un qui tient le cap depuis sa création en 2011. C'est l'écolieu Jeannot à Rion-des-Landes. Les valeurs portées à cet endroit sont la production et la consommation durable et saine, ainsi que la transmission des savoirs. Par exemple, si vous voulez apprendre à jardiner au naturel, c'est ici que ça se passe. On parle aussi du mieux vivre ensemble, à construire. L'écolieu Jeannot est animé depuis sa naissance par l'association C'est quoi ça ? Et il est devenu vraiment une référence dans le paysage local et départemental. Jeannot.fr, il n'y a qu'un seul N, J-E-A-N-O-T, Jeannot.fr. Il y a aussi un lien à la page Facebook de ce collectif et de ce tiers-lieu. Julien Després, bonjour.
Bonjour.
Julien, réalisateur d'un documentaire qui nous a bien intéressé, qui s'appelle Cueilleur en résistance, Cueilleur au pluriel, qui est disponible maintenant en DVD, en VOD, et que vous proposez des projections publiques dans les salles en France. Vous aviez réalisé Noir Coton déjà en 2009 sur les problématiques de la souveraineté alimentaire en Afrique noire, et en particulier sur la gestion et la production du coton au Burkina Faso.
Oui, tout à fait. Oui, c'était une manière de rentrer dans la problématique de la souveraineté alimentaire au Burkina Faso et de voir comment le coton était lié avec cette souveraineté. Et il y avait aussi, à l'époque, le coton OGM qui était testé en plein air, justement dans ce pays. Et du coup, ça posait toutes les problématiques de propriété des semences, de leurs droits à leur souveraineté.
Voilà. Ouais. Dans Cueilleur en résistance, vous nous étonnez parce que vous abordez le sujet aujourd'hui qui est à la mode, j'aime pas dire ça, d'une médecine naturelle, de phytothérapie, d'huiles essentielles qui constituent un grand marché avec beaucoup d'importations. Les cueilleurs en résistance traitent donc de ces cueilleurs authentiques qui se retrouvent en résistance face à un marché en pleine croissance, justement de ces herbes médicinales.
Mais quand j'ai rencontré Thierry Thévenin, l'herboriste cueilleur, et Aline Mercant, la médecin, ils m'ont tout de suite alerté sur la problématique de justement l'éthique de ce nouveau marché qui est en train de prendre de l'ampleur, et que on se pose pas forcément la question de la provenance de ces plantes, de comment elles sont cueillies, de quelle quantité sont cueillies. Et moi, quand j'ai échangé avec eux, je connaissais pas du tout cette problématique.
Thierry est cueilleur herboriste, il vous accompagne tout au long du film, et il fait partie de cette, ce sont des filières de la cueillette, mais il y a une école d'herboristerie en France maintenant.
Oui, alors visiblement, il y a plusieurs écoles. Thierry, il se bat un peu pour essayer de valoriser l'herboristerie en France. Mais il y a un peu de tout. C'est-à-dire que, surtout Aline est un peu en position critique vis-à-vis de certaines écoles. Elle trouve qu'il n'y a pas assez, justement, de volet écologique. C'est-à-dire de se poser la question de comment gérer la ressource pour qu'elle, justement, elle soit préservée, quoi.
Oui. Deuxième interlocutrice, donc effectivement, Aline Mercant, qui est médecin phytothérapeute, et qui dit la phytothérapie est et restera très empirique.
Bah... Oui, parce que chacun est différent. Elle dit on n'est pas juste un gros tas de cellules, on réagit chacun face aux plantes qu'on absorbe. Et donc, les résultats sont différents à chaque fois. Et on découvre que voilà, certaines plantes ont des propriétés pour certaines personnes, mais peut-être pour d'autres un peu moins. Mmh. Voilà, c'est ça ce qu'elle appelle empirisme.
Exemple, l'origan. Vous allez sur les sites de production, sites coopératifs au Maroc, qui sont les premiers producteurs et importateurs en France d'origan.
Ouais, alors le Maroc, c'est le premier, je crois, importateur de plantes médicinales pour la France. Donc c'est aussi pour cette raison qu'on est allé là-bas. Et effectivement, oui, il y a beaucoup d'huiles essentielles qui sont importées du Maroc et qui mettent un peu en péril l'origan compact, c'est-à-dire celui qu'on trouve le plus, mais qui, justement, est très demandé et pose un problème de ressources, là, actuellement, au Maroc.
Et on voit l'exemple de jeunes techniciens qui se sont mis à l'apiculture et qui, au milieu d'une production d'origan, produisent leur miel, installent leur ruche, avec la conscience de la nécessaire défense de la biodiversité. Alors, c'est incroyable. Avec cette surproduction au Maroc, on prend d'un seul coup conscience qu'on va trop loin et il faut aussi ménager la biodiversité. Et chez nous, au nom de la nature et de la défense de la biodiversité, on surconsomme maintenant les plantes médicinales.
Il y a un effet de mode. Et alors effectivement, il y a le Maroc, mais il y a plein d'autres pays, notamment en Asie, avec toutes les médecines un peu à la mode tibétaine, chinoise et ayurvédique. Selon certaines études, il y a 80% de la pharmacopée végétale qui est menacée dans les 20 ans à venir. Mmh. C'est pas que au Maroc, c'est en France, c'est un peu partout dans le monde, quoi.
Et vous continuez à utiliser les huiles essentielles pour vos enfants, Julien ?
Alors, non, moi j'utilise très peu les huiles essentielles. Il y a un petit conflit à la maison, mais ma compagne a un peu réduit l'usage des huiles. Mais moi, j'en ai jamais trop pris. J'essaye de plutôt rentrer dans ce que propose Aline, c'est-à-dire faire de la prévention avant de tomber malade, donc des tisanes de thym quand l'hiver arrive pour refaire son immunité avant d'attaquer le froid. Donc, c'est essayer de savoir pourquoi on est malade. C'est aussi peut-être à cause de notre rythme de vie qui est un peu trop dense parfois. Et voilà, écouter son corps pour se reposer quand il en a besoin, quoi. Ouais.
Où peut-on trouver le DVD ?
Alors, on peut le trouver sur un site qui s'appelle Films et Documentaires. En fait, on est une petite association qui produisons nos films nous-mêmes. Et si on veut des renseignements, il y a un site qui s'appelle lamar.org. Et c'est là où on trouve les infos pour acheter le DVD.
Filmsdocumentaires.com et vous allez, on va vous donner le lien avec Cueilleur en résistance, le film de Julien Després. Merci Julien.
Merci Philippe.